Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que tout le Royaume-Uni vibre à l'unisson du jubilé de diamant de la reine Elisabeth, Franck Ferrand réunit deux éminents spécialistes de ce personnage entré vivant dans l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est le moment ou jamais de diffuser ceci.
C'est assez émouvant puisque vos invités chantent à l'unisson.
Oui, je vais vous les présenter dans un instant. Mais je pense que parmi nos auditeurs, tout le monde a un peu le sentiment de connaître cette femme dont l'image a été reproduite par centaines de milliards, ne serait-ce que sur les timbres et les billets de nombreux pays. Elle fait partie de nos vies depuis si longtemps. Cela fait 60 ans qu'elle accumule une expérience politique sans équivalent, non seulement parmi les personnes vivantes, mais probablement dans les siècles passés. 60 années vécues au premier rang des grands de ce monde, à rencontrer tout ce que la planète compte d'exceptionnel, à recevoir les confidences des premiers ministres, les renseignements les plus confidentiels, dont pas mal de secrets d'État. Le cas de la reine Elisabeth est unique, disons-le, et son parcours force le respect de tous, même parmi les adversaires irréductibles de la monarchie.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Dimanche, lu dans le journal intime de la reine, comme je me rappelle bien ce jour où, il y a 60 ans, j'ai été tiré du lit par ma chère mère pour apprendre la nouvelle de mon avènement. Le lendemain, la reine quitte Windsor et se rend en train jusqu'à Londres par la gare de Paddington. Le soir même, elle préside un banquet d'État puis un grand bal pour les invités aux célébrations de son jubilé de diamant. Lu dans le journal intime de la reine ce lundi soir, les rues étaient magnifiquement décorées, de même que les balcons des maisons avec des fleurs, des drapeaux et des tentures de toutes sortes. Une journée fériée a été accordée le mardi à tous les sujets de Sa Gracieuse Majesté. Ce mardi, à 11h15 du matin, la reine quitte Buckingham pour une procession dans la ville, procession au cours de laquelle la population est là pour lui manifester sa gratitude à l'occasion du 60e anniversaire de son règne. 17 carrosses de la cour, entourées des différentes maisons militaires, l'ont conduite jusqu'à la cathédrale Saint-Paul, où est donné un Te Deum. Sur le chemin du retour, la reine fait une halte à Mansion's House pour recevoir les hommages de la ville de Londres et de son Lord Maire. Lu ce mardi dans le journal intime de la reine. Un jour à ne pas oublier. Personne, je pense, n'a jamais pu recevoir une ovation comparable à celle qu'on m'a réservée tout au long des 6 miles de cette procession. Les foules étaient indescriptibles et leur enthousiasme vraiment merveilleux et touchant. Les acclamations étaient plus que ferventes et chaque visage paraissait irradier la joie. Le lendemain, mercredi, la reine sera encore fêtée par 10 000 écoliers sur son trajet jusqu'à la gare de Paddington. Avant de regagner le château de Windsor, elle entend encore les compliments des deux chambres du Parlement. Ne vous y trompez pas, la souveraine dont il est question ici, c'est la reine Victoria, dont on célébrait en juin 1897 le jubilé de diamant, 60 ans d'un règne exemplaire. Eh bien, 115 ans plus tard, en ce mois de juin 2012, son arrière-arrière-petite-fille, la reine Elisabeth, fête elle aussi son jubilé de diamant, 60 ans d'un règne non moins exemplaire. Nous avions consacré ici même, il y a 6 mois, une émission entière à cette figure hors du commun et hors du temps, il m'a semblé, au moment où le monde entier s'est mis aux couleurs de la Grande-Bretagne, il m'a semblé qu'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et du Commonwealth, chef de l'Église anglicane, doyenne des souverains d'Europe, méritait qu'on revienne sur les grandes dates de son règne. Elle est la femme la plus célèbre du monde, assurément, mais elle reste peut-être l'une des plus mal connues. Alors pour nous aider à ressusciter ces 60 années extraordinaires, j'ai demandé à deux auteurs qui connaissent extrêmement bien la reine Élisabeth II d'être des nôtres et de nous guider en quelque sorte. Je suis ravi de recevoir Isabelle Rivert, qui est l'auteur d'un ouvrage assez remarquable. Ça s'appelle « Élisabeth II dans l'intimité d'un règne » et ça vient de paraître chez Fayard. Et bonjour à Jean Descartes, que connaissent
Franck.
Bien nos auditeurs. Vous êtes un habitué non seulement de la maison, mais de cette émission, Jean. Et vous connaissez les cours d'Europe comme personne, et notamment la cour d'Angleterre, bien entendu. Est-ce qu'on peut comparer ces deux jubilés de diamants? Est-ce que celui de 1897 et celui de 2012, qui a commencé donc depuis quelques jours maintenant, sont comparables?
Alors bien sûr, on peut les comparer dans l'hommage rendu à la souveraine, dans les deux cas, mais les manifestations ne sont pas les mêmes. Les festivités qui sont en cours actuellement à Londres et dans le Royaume-Uni sont beaucoup plus fortes, notamment avec cet extraordinaire défilé naval qui a eu lieu hier. Pourquoi ? Parce que il remonte à 1662 comme tradition. Et pourquoi ? Parce que le roi Charles II, qui était le fils du roi Charles Ier, décapité sur ordre de Cromwell, était revenu sur le trône, il y avait une restauration après la tentative républicaine de Cromwell, et que cet homme était vraiment en train de reconstruire l'Angleterre. Et pourquoi un défilé naval ? Il était passionné par la mer et il est le premier roi d'Angleterre qui a eu un yacht. Donc la tradition que nous avons eue hier, avec ses 1000 bateaux, a 390 ans.
En même temps, ça n'est pas pour nous surprendre. On connaît le goût des Britanniques pour la tradition. Nous allons découvrir dans un instant jusqu'où se porte leur incroyable ferveur pour la reine.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et Franck, des millions de personnes sont à l'heure anglaise en ce moment et pour cause, elles vibrent à l'unisson pour célébrer les 60 ans de règne de la reine Élisabeth II.
Les Anglais, les Britanniques, d'une façon générale, tous les sujets de sa gracieuse majesté à travers les 15 pays dont elle est la souveraine sont en fête en ce moment. Les télévisions nous abreuvent littéralement d'images extraordinaires, d'une ferveur magnifique. D'où vient-elle cette ferveur, Isabelle Rivert? Comment expliquer l'attachement de tous ces peuples à cette reine après 60 ans d'un règne qui n'a pas semblé l'user du tout?
C'est surtout qu'après 60 ans de règne, elle incarne ce que les Britanniques estiment avoir de meilleur, à savoir une assiduité, un stoïcisme, un sens du devoir suraigu auquel elle n'a jamais failli pendant toutes ces années. Et puis elle est également le symbole d'une forme de continuité historique, le symbole de l'unité, de la stabilité du royaume, et à une époque où tout change et où tout change très vite, où les bouleversements s'enchaînent sans que personne ne paraisse en mesure d'en enrayer le cours, eh bien elle est là, et son génie, c'est une forme que moi j'interprète comme une forme de génie politique, même si la reine n'est pas une figure politique, eh bien son génie politique à elle, c'est d'avoir su résister à toute forme de changement et d'avoir incarné cette forme de permanence dans un monde où tout change continuellement.
Ce que vous nous dites dans cet ouvrage, Élisabeth II, dans l'intimité du règne, c'est qu'en fait, elle n'a pas toujours eu tout à fait la même popularité. Il y a eu des hauts et des bas dans ce règne.
Il y a eu des hauts et des bas, et il en faut d'ailleurs, justement pour émerger, pour sortir de ces 6 décennies, la tête haute et triomphante comme elle est aujourd'hui. Il a bien fallu en passer par des épreuves elle en a connu. Il y a eu de nombreuses épreuves privées qui ont été longuement et abondamment chroniquées, et puis il y a eu d'autres épreuves, notamment dans les années 60, 70, où sa popularité effectivement a connu des hauts et des bas, où une remise en question globale, notamment des jeunes générations, s'est opérée, qui fait qu'effectivement à un moment on a cru l'image, la popularité, la stature, la figure royale menacée, mais ça n'a pas duré.
L'image de la reine, Jean Descartes, est d'une stabilité assez étrange. On a l'impression, même si, évidemment, peu à peu, son physique évolue, sa façon d'être aussi, on a l'impression néanmoins qu'elle est toujours absolument la même, comme inaltérable.
Mais c'est exact, parce que si vous regardez l'image au sens photogénique, par exemple, la reine n'a jamais changé de coiffure, donc elle n'est pas démodée puisqu'elle n'a jamais été à la mode. Bon. Les chapeaux qu'elle porte, alors il y en a environ 5000 qu'elle a portés depuis le début de son avènement, qui sont devenus, je dirais, une sorte de substitut de la couronne. C'est extraordinaire. La reine fait ce qu'on attend, elle porte le sac, il y en a plus de 500 qu'elle a en sa possession personnelle. Elle apparaît comme elle doit l'être, avec des couleurs plutôt vives, pour qu'on la remarque, ce que disait déjà la reine-mère, je suis là pour qu'on me voie. Donc c'est une personne qui rassure, et je crois, voyez-vous, qu'il y a quand même une dimension politique. La reine reçoit tous les mardis, sauf urgence, le Premier ministre. Alors il faut rappeler que depuis Victoria, le souverain britannique constitutionnel dispose quand même de trois prérogatives. Elle consulte, elle encourage, elle met en garde. Autrement dit, lorsqu'elle dit au Premier ministre « Monsieur ou Madame le Premier ministre, êtes-vous sûr que ce soit la bonne solution ?» Ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est lui qui décide, c'est le gouvernement, et en aucun cas elle ne pourra critiquer ou revenir sur cette décision. Je crois que cette femme est depuis, alors je dirais 70 ans, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, quand son père, le roi George VI, l'avait initié aux affaires de l'État, en lui montrant le contenu des fameuses boxeuses, ces boîtes de cuir rouge frappées au monogramme du souverain avec les messages confidentiels, les rapports, les analyses des services secrets, des services diplomatiques, tout, c'est la femme la mieux informée du monde et qui ne peut pas en faire État.
Et depuis si longtemps.
Et depuis si longtemps.
Et qui alors, a ça, rencontré c'est... tant de
Je veux
de
dire
figures.
Que ça, à mon avis, ça doit rendre jaloux des présidents de République, parce que un mandat de 5 ans, ça paraît bien court par rapport à ça. Et de savoir tant de choses, de ne pas pouvoir en faire état. Et Isabelle Rivière a parfaitement raison, il y a eu des périodes terribles. Elle a résisté à ça, plus, comme vous le disiez, madame, au choc privé. 4 enfants, 4 mariages, 3 divorces. Plus les crises conjugales avec le duc d'Édimbourg, plus beaucoup de choses, jusqu'au traumatisme planétaire de l'affaire Diana, je dis l'affaire après la mort, qui pendant 5 jours montre une souveraine en apparente froide, absente de compassion, et qui, grâce à Tony Blair, va réagir. C'est un moment où le peuple a montré son hostilité. Mais il y avait beaucoup d'éducation et de retenue dans tout ça.
Je vous propose, si vous le voulez, de revivre ces 60 années de règne en isolant un certain nombre de dates emblématiques. Ça nous permettra de constater à quel point la reine, dans toutes ces épreuves et à travers toutes ces époques qu'elle a pu traverser, a manifesté une très très grande rigueur. Et toujours, c'est ce qui suscite évidemment l'admiration générale, toujours une parfaite, parfaite distinction.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 de Pomp and Circumstance, composé par Edouard Elgar, puisque nous intéressons aujourd'hui à la reine Elisabeth II. Nous vous retrouvons, Franck, avec Jean Descartes, historien écrivain, Isabelle Rivère, journaliste et auteur spécialiste du Gotha.
Vous nous dites, Isabelle Rivère, que la reine est francophile, qu'elle est francophone, bien entendu, et qu'elle a entretenu avec la France des rapports qui sont quasiment uniques, pour ce qui est en tout cas des pays extérieurs au Commonwealth.
Absolument. Elle a appris le français très tôt, à l'instigation de sa mère, Queen Mum, qui avait été élevée elle-même en partie par des gouvernantes françaises et qui, à l'âge de 8-10 ans, parlait un français impeccable. On a retrouvé des dissertations, enfin des rédactions de la jeune Lady Elizabeth Bowes-Lyon lorsqu'elle était petite, qui ferait pâlir d'envie plus d'un lycéen français d'aujourd'hui. Et donc, elle-même étant très francophile, elle avait découvert Paris avant d'être fiancée au futur George VI. Elle a toujours eu une passion pour la France et c'est une passion qu'elle souhaite très tôt instiller à ses filles, Elisabeth et Margaret. Elle va faire en sorte que ses filles soient elles aussi élevées, en partie par des gouvernantes françaises, dont une certaine Georgina Guérin, qui deviendra l'une des grandes figures de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Queen Mum, qui n'était pas Queen Mum à l'époque, mais l'épouse de George VI, aimait inventer pour ses filles toutes sortes de jeux pour leur faciliter l'apprentissage du français. Elles avaient des cours d'histoire de France, etc. Et cette francophilie va vraiment prendre racine très, très fortement chez Elisabeth, au point qu'après son mariage avec Philippe en 1947, eh bien, son premier voyage officiel en solo hors des frontières du Commonwealth et hors des frontières de la Grande-Bretagne, elle va choisir de le faire à Paris. C'est en 1948. Elle vient alors officiellement inaugurer une exposition au musée Galliera, 8 siècles de vie britannique. et elle en profite.
C'est le président Auriol qui la reçoit.
Oui, évidemment. Oui. Le voyage s'est fait à l'invitation du président Auriol. C'est l'un des voyages fondateurs de l'Elizabeth Mania dans l'Hexagone, avant le grand voyage d'État de 1957. Eh bien, on va la voir prononcer son premier discours en français sur les marches du palais Galliera. Elle va faire forte impression. Les Parisiens se réjouissent d'accueillir cette jeune princesse qui est ravissante, qui est pleine de charme, qui est une jeune mariée et qui incarne déjà une forme de majesté, de prestige de la couronne de Grande-Bretagne.
Et dont ils ne peuvent imaginer qu'elle sera, moins de 3 ans plus tard, devenue reine d'Angleterre. Alors, j'ai promis à nos auditeurs une sorte de chronologie. La première date, ça on n'y échappera pas, c'est un certain 21 avril 1926. On tire 41 coups de canon pour la naissance d'une princesse qui, au départ, est assez loin du trône, disons-le, Jean Descartes.
Oui, elle dira souvent, d'une façon privée, je n'étais pas destiné à régner. Alors il faut dire que les événements qui vont se suivre, on peut les résumer très rapidement. C'est essentiellement l'affaire d'Édouard VIII, son oncle, qui va devenir le duc de Windsor, qui va donc abdiquer
1936.
En 1936 pour cette Américaine. Contrairement à ce qu'on raconte en ce moment, qui n'est pas 2 fois divorcée, elle est déjà 1 fois divorcée, est en instance d'un second divorce.
Ça, c'est, vous faites allusion au film de Madonna.
De Madonna, oui. Oui, mais enfin, il y a tellement d'erreurs actuellement, les fantasmes sont légion. Ce qui va obliger donc le père d'Elisabeth, de Lilibet, comme on dit dans la famille, qui a ce terrible handicap d'élocution que le film Le Discours d'un roi a montré, à succéder à son frère vivant, ce qui est rare dans une monarchie, et à affronter, je dirais, 3 adversaires, lui-même, avec son problème d'élocution, ensuite Hitler, pendant la guerre, et aussi son frère, considéré comme un traître, puisque favorable au national-socialisme. Paradoxalement, comme le dira une lady de la bonne société britannique nécessairement caustique, on devrait, je mets des guillemets bien sûr énormes, élever une statue à Wallis Simpson, parce que à cause d'elle et grâce à elle, nous avons eu un très bon roi George VI et une très bonne reine Elisabeth II. C'est-à-dire que voilà comment elle est arrivée sur le trône.
Oui, elle est princesse héritière, alors qu'au départ, voilà. rien ne l'y prédisposait naturellement.
C'est ce que disait la comtesse Mountbatten que j'ai rencontrée pour le livre et qui me disait donc elle a un rapport vraiment très très familier, très simple avec Elisabeth, avec Elisabeth II, parce que la comtesse Mountbatten est la cousine germaine du prince Philippe. Et elle lui a dit, effectivement, il n'y a pas très longtemps, elle dit, on devrait élever des statues à cette Wallis Simpson. Et la reine a fait quoi? Vous n'y pensez pas? Et la comtesse Mountbatten lui a dit, mais si, parce que nous ne l'aurions pas eu elle, nous ne vous aurions pas eu vous.
Exact. Voilà.
Et on n'aurait pas eu un certain nombre d'autres éléments très importants dans l'histoire. C'est vrai que là, on est dans la... Attention à ne pas faire de l'histoire-fiction et de l'uchronie, mais avec des si, tout est possible. Mais c'est vrai que cette Wallis Simpson, en quelque sorte, a permis de se débarrasser d'un roi bien encombrant, Édouard VIII, l'oncle d'Elisabeth II. Vous venez de prononcer, Isabelle Rivère, un nom très important, c'est celui du prince Philippe. Alors, dans nos dates et dans nos chronologies, on est là, lors de leur première rencontre, en 1938. C'est très tôt, finalement. Elle est toute jeune princesse, lorsqu'elle s'éprend déjà des beaux yeux de Philippe de Grèce.
On dit que leur chemin s'était déjà croisé avant cette fameuse rencontre au collège naval de Dartmouth en 1939. On dit, ils s'étaient notamment 1939. Ils s'étaient notamment croisés déjà au mariage du duc de Kent en 1934, probablement aussi lors du jubilé de George V en 1935. Mais l'un comme l'autre ne se souvient pas d'une rencontre qui aurait été antérieure à celle du collège de Dartmouth en 1939. Et c'est vrai qu'à l'époque, Elisabeth a à peine 13 ans. Elle a en face d'elle ce jeune prince, né prince de Grèce et Danemark, qui lui a 17 ou 18 ans. Philippe, à l'époque, est un très beau garçon. Il faut dire qu'il est extrêmement séduisant.
Mais les parents de la princesse ne veulent pas de lui comme gendre au début. C'est elle qui va l'imposer. Et ça montre d'emblée que, toute jeune encore, elle est douée d'un caractère fort. Ce sera d'ailleurs une des rares épreuves de force de sa vie. Mais là, elle va imposer ce mariage.
Elle va imposer ce mariage. Alors, on a souvent laissé entendre que la famille de Philippe, et notamment Lord Mountbatten, aurait poussé pour faire aboutir ce mariage. C'est-à-dire, on a accrédité des rumeurs de mariage arrangé qui, vraiment, a posteriori, ne paraissent pas fondées du tout. Le mariage d'Elisabeth et Philippe est d'abord un mariage d'amour. Il est vrai
1947, le mariage.
1947, il est vrai qu'à l'origine, Georges VI et son épouse ne sont pas très favorables à ce mariage pour une raison principale, qui est qu'Elisabeth est trop jeune et n'a pas connu d'autres hommes avant lui. Ensuite, il est probable que Georges VI aurait préféré un Britannique. Georges VI se demande si les Britanniques eux-mêmes ne préféreraient pas un Britannique. Et puis, on reproche toutes sortes de choses à Philippe, dont la famille est en exil. Il est lui-même sans le sou, il sort d'écoles que l'on juge trop progressistes. Enfin voilà, on se demande quelle influence il est susceptible d'avoir sur cette jeune princesse qui est amenée à régner un jour sur le royaume de Grande-Bretagne. Et puis Elisabeth, faisant preuve, vous l'avez dit très justement, d'une grande détermination, d'une grande force de caractère, va imposer cet amour qu'elle éprouve pour Philippe. Et comme on le dit très justement aussi dans son entourage, elle est comme la reine Victoria, la femme d'un seul homme.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous évoquons le jubilé de diamant de la reine Elisabeth. L'occasion, bien évidemment, de revenir sur son parcours, cher Franck.
Et nous sommes déjà en 1952, année essentielle, année fatidique d'une certaine façon. Le 6 février 1952, la princesse Elisabeth est en voyage en Afrique orientale. Elle est accompagnée par son mari, bien entendu, par le prince Philippe. Et c'est lui qui va lui apprendre, dans des circonstances extrêmement dramatiques, la mort de son père, Isabelle Rivère.
En fait, ils sont en route pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils doivent représenter le roi George VI et son épouse lors d'une grande tournée du Commonwealth qui doit durer plusieurs mois. Ils font halte au Kenya, où le gouvernement kényan a notamment leur avait offert en cadeau de mariage un pavillon de chasse à proximité des monts Aberdare. Et donc le jeune couple va passer là quelques jours de vacances idylliques. Et puis, un 6 février, le secrétaire particulier de la princesse Elisabeth termine son déjeuner dans un restaurant à proximité, enfin à quelques kilomètres du pavillon où se trouvent Elisabeth et Philippe, eh bien, est discrètement abordé par un reporter d'un quotidien local qui l'informe qu'une dépêche de l'agence Reuters vient de tomber au bureau de Nairobi. Une dépêche qui mentionne le décès, la disparition de George VI. Toutes les précautions avaient été prises, bien entendu, dans les affaires d'Elisabeth. Il y avait des vêtements de deuil, il y avait tout un tas de papiers qui étaient déjà prêts, mais on n'imaginait pas du tout.
On ne surprend jamais la monarchie britannique.
On ne surprend jamais tout à fait la monarchie britannique. Reste qu'il est probable d'abord qu'Elisabeth n'aurait jamais entrepris ce voyage si elle n'avait pas été certaine que son père, qui était alors très malade, n'était pas sur la voie de la guérison, puisqu'il se remettait d'une opération d'un cancer au poumon. On va prévenir cette toute jeune femme qui est à l'époque dans sa 26e année, qui n'a pas encore fêté son 26e anniversaire, qui, elle, pensait pouvoir profiter d'une vie de jeune mariée, de jeune maman pendant encore plusieurs années. On va prévenir, voilà, que cette jeune femme, que son destin vient de basculer. Ce qui est très curieux, c'est que on ne sait pas exactement à quel moment elle est devenue reine, puisque le roi George VI est mort dans son sommeil au château de Sandringham. C'est l'un de ses valets qui le matin le trouve mort à 7h30. Oui. La nuit où son père est mort, Elisabeth se trouvait dans un arbre en train d'observer des animaux sauvages. Voilà. Et donc elle est montée dans cet arbre princesse. Elle en est redescendue reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Alors, vous expliquez, Jean Descartes, dans votre saga des Windsor, paru chez Perrin, vous expliquez qu'au moment où elle devient reine, elle est forcément écrasée par les figures accumulées de tous ses grands prédécesseurs, de son propre père George VI, dont elle admire beaucoup la dignité, de son grand-père George V, qui a été une sorte de figure tutélaire pour toute cette génération de la famille royale d'Angleterre, et puis au-delà, par l'intelligence évidemment d'Édouard VII, et puis par la figure, la statue immense de cette reine Victoria, qu'elle est en train quasiment d'égaler, sinon de dépasser en ce moment.
Absolument. Mais c'est une femme de devoir, comme l'était sa mère, Queen Mum, plus tard. Elisabeth est une professionnelle de la monarchie. de A à Z. Ça, il n'y a aucun doute, c'est fantastique la façon dont elle peut rester debout pendant des heures devant des défilés, avoir des déclarations. J'en prends une au hasard, lorsque les anciens combattants britanniques ont hué la personnalité de l'empereur Hirohito sur le Mall à Londres, vers Buckingham Palace, elle a simplement dit un peu plus tard, j'espère que l'empereur ne comprend pas l'anglais. Ce qui est une façon vraiment humoristique et légère. Bon, elle incarne le temps sans état d'âme, et tout de suite, elle s'est mise au travail. Alors, il y a quelqu'un qui a été témoin de sa puissance de travail et de sa connaissance des affaires, c'est Churchill, qui a été stupéfait qu'à 26 ans...
Le divertissant Churchill.
Le divertissant Churchill. Et je précise qu'en 1955, Churchill, se retirant enfin des affaires, a donné un dîner à Downing Street, ce qui était rarissime. Donc, le gouvernement recevait l'État... Toast à la reine, toast au Premier ministre, et Churchill, avec son grand cordon de la jarretière un peu de travers, le brandy était passé par là, va tenir la porte de la limousine de la reine, et c'est pour cette raison qu'elle va imposer des funérailles nationales pour Winston Churchill, ce qui ne s'était jamais fait. Le même Churchill qui était apparu au balcon en 1945 de Buckingham, ce qui n'est pas l'usage pour un Premier ministre, à la demande de... George VI. Alors je pense que ce travail fait par son père pendant la guerre contre son frère, donc le duc de Windsor, trop léger, trop futile et inconscient, a permis hélas à Elisabeth, à Lilibet, de voir la santé de son père se dégrader. C'est la raison pour laquelle elle a refusé à son oncle David, le duc de Windsor, de voir son frère sur son lit de mort, parce qu'elle a vu son père se tuer au travail et à coups de cigarettes et de privations.
Nous allons revenir sur les piliers, sur les êtres essentiels à la vie de cette reine tout à fait hors du commun. Nous parlons aujourd'hui, bien sûr, de la reine Elisabeth II, nous aussi, mais nous en parlons, j'espère, avec un peu plus de recul que certains de mes confrères. Nous avons une approche historique ici, vous le savez bien.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 du Rule Britannia qui est Franck, l'hymne officieux de la Grande-Bretagne. Retrouvons Franck justement avec ses invités pour une émission, vous l'avez compris, consacrée à la reine Elisabeth II.
La reine d'Angleterre est forcément le chef de sa maison, donc le chef de famille. Mais si l'on entre dans l'intimité, si je puis dire, du couple Windsor, on se rend compte qu'en fait à Buckingham, le vrai chef de famille, c'est bien le prince Philippe, Jean Descartes.
Oui, notamment pour les questions privées et d'éducation, ça n'a pas toujours réussi, mais il y tenait. On sait qu'il y a eu une crise dans les années 60, il n'avait pas le statut de prince consort, il est parti pendant des mois vers l'Australie, il est parti accompagné d'un de ses secrétaires, il s'est laissé pousser la barbe, des rumeurs d'infidélité ont circulé, jamais prouvées d'ailleurs. La reine a compris, comme l'avait fait d'ailleurs Victoria, qu'il en avait assez, Philippe, d'être toujours le numéro 2, y compris dans la famille. Alors, il faut dire que, comme chef de famille, la reine Elisabeth, la reine actuelle a eu à gérer déjà le problème de sa propre mère à la mort du roi, George VI.
Ça, c'est le et deuxième avait, pilier, si
oui,
je puis dire.
Il y avait encore la reine Marie qui était vivante, mais enfin, oui. Très âgée. Il y avait donc déjà deux reines mères. Problème de statut, d'autorité, de place dans la vie officielle du royaume. Et puis, il y a eu le problème de Margaret, qu'elle adorait, qui a été quand même
troisième
très,
pilier.
Très douloureux parce que la princesse a vécu une romance... titré la princesse triste dans les magazines de l'après-guerre avec l'amour impossible pour le groupe Captain Peter Townsend, puis un deuxième mariage, puis la dépression, puis l'alcoolisme, etc. Elle adorait sa sœur. D'ailleurs, George VI avait une préférence pour Margaret qui le faisait rire en imitant les chanteurs, les acteurs, mais il n'avait confiance qu'en Elisabeth. Et à ce point de vue-là, il ne s'était pas trompé. Donc, et puis, Philippe... une institution, un roc. Alors, on connaît ces gaffes diplomatiques extraordinaires. Une des récentes, d'ailleurs, est assez grandiose. Elle a même fait l'objet de rire aux communes et aux lords, voyant quelqu'un dans un fauteuil roulant provisoirement à la suite d'un accident. Il lui a demandé « Quelle est la personne que vous avez écrasée récemment ?» C'est un humour quand même assez caustique. Mais au mois de décembre dernier, la veille de Noël, il y a eu une alerte coronarienne pour le prince qui a été opéré. On sent très bien, la reine a été touchée, si je puis dire, elle au cœur. Il est le rempart, le dernier refuge dans le mur secret, peut-être celui qui sait tout, mais ne peut encore moins dire quoi que ce soit. Et c'est un couple qui me semble donner l'impression d'aller, après tant de tempêtes, vers la sérénité. Et à propos de tempêtes, n'oublions pas que la reine n'a pas arrêté de travailler, même quand elle était dans ses voyages. Le Britannia, ce merveilleux bateau qu'ils ont construit, comme ils disent, c'est notre maison, parce qu'on l'a construit, Balmoral et Windsor, il existait avant. Et était, le Britannia était la troisième résidence officielle de la reine et elle avait un matériel, un bureau, elle travaillait tout le temps à bord.
Ça fait partie de ces privilèges auxquels elle a été peu à peu contrainte de renoncer, ou amenée à renoncer plutôt que contrainte, devrais-je dire, Isabelle Rivère.
Oui, la monarchie, victime des temps modernes, comme bien d'autres institutions, a été contraint de réduire considérablement son train de vie ces dernières années.
Il y a eu cette année emblématique de 1992 où tout semblait aller mal, avec notamment
l'Annus Horribilis, qui a été vraiment, oui, sans doute la pire année du règne d'Élisabeth II, année qui a vu se séparer le prince Charles et la princesse de Galles, Diana, année de l'incendie du château de Windsor.
C'était un symbole terrible.
Tout un symbole terrible. C'est vrai qu'en cette fin d'année 92, lorsqu'on voit la reine marchant désemparée, c'est l'une des seules fois de son règne où on l'a vu à ce point désemparée, errant en fait au milieu des décombres de son château fumant. C'est vrai qu'à l'époque, la vision paraît hautement symbolique et qu'on pense que la monarchie va sombrer en même temps qu'achève de se désagréger le mariage de l'héritier du trône dans un chaudron brûlant de scandales et de tohu-bohu médiatiques comme on n'en avait pas vu depuis plusieurs dizaines d'années.
Alors, elle a quelques... J'aurais aimé qu'on dise quelques mots des célébrations, mais après tout, on en parle tellement de ces célébrations que nous allons parler du reste, si vous voulez bien. On n'aura pas le temps, là, malheureusement. Il y a quand même, il faut le dire, un grand concert aujourd'hui au palais de Buckingham.
Oui, il y a un concert à Buckingham.
Une sorte de star.
Avec des grandes voix, Elton John, bien sûr, Shirley Bassey, etc. Avec 20 000 personnes attendues, dont 10 000 ont été tirées au sort, membres d'associations caritatives, dont la souveraine et la présidente.
Oui, il y a toujours cette dimension-là, évidemment.
Toujours.
On est dans une monarchie qui est particulièrement représentative. Ses passions, si je puis dire, ce sont...
Les chevaux.
Les chevaux, les courses.
Vous savez que le jour de son couronnement, en 1953, elle a parié. Et elle a perdu. Et elle est obligée de consoler l'entraîneur, ce qui était quand même un con. Et là, les fêtes du jubilé, samedi, ont commencé par un derby d'Epsom. C'est une course qui existe depuis 1780. Et quand la reine apparaît dans le Royal Enclosure, c'est un triomphe absolu. Non, les chevaux sont très importants. Elle ne monte plus pour la cérémonie Dropping the Collar depuis 1986, qui était la célébration officielle de son anniversaire en juin, même si ce n'est pas la bonne date. Ça a été
certainement... Oui, elle est née en avril. Et on célèbre toujours ça en juin pour des raisons climatiques évidentes en Angleterre.
Absolument. Et je pense que la passion des chevaux, des animaux, des chiens, de beaucoup de choses permet
la
ces
nature,
détails.
Disons,
c'est Georges V aimait beaucoup les collections de timbres. Il y a des petits détails, des petites activités qui permettent quand même de prendre une distance par rapport au fardeau du pouvoir quand vous savez tant de choses et que vous devez les garder pour vous.
Une chose que vous avez sans doute constatée, Isabelle Rivère, c'est son humour.
Oui,
elle est assez légère, si je puis dire, dans la conversation. Elle a l'art de la conversation. Il faut dire qu'au bout de 60 ans, elle est un peu rodée, forcément.
Elle a l'art de la conversation, et encore, parce qu'elle a toujours estimé que sa mère et sa sœur maîtrisaient cet art bien mieux qu'elle.
Oui.
Mais elle a toujours comme une forme de réserve, de timidité, de distance. C'est une distance que lui a apprise notamment son grand-père, Georges V, qui lui avait appris l'art de se bien comporter lorsqu'on est un monarque régnant. Mais cet humour, oui, c'est un humour qui s'exerce souvent sous la forme d'une auto-dérision que pratique très bien aussi son fils, le prince Charles. C'est une femme tout à fait hors du commun.
Vous savez que lorsqu'elle a eu à entendre qu'un ancien député travailliste devenu secrétaire d'État dans un gouvernement travailliste avait regardé la reine pendant des heures présider un défilé et s'était laissé dire « Oh, la reine a vraiment une jolie jambe » et que quelqu'un l'a entendu, l'a reproduit dans un journal. Le malheureux homme a téléphoné à Buckingham Palace, au secrétaire particulier de la reine, pour lui dire « Je suis absolument confus, je ne sais plus où me mettre, quelle incongruité, quelle indécence de ma part. » On lui a répondu « Mais pas du tout. Sa Majesté nous a chargé de vous dire qu'elle était très heureuse car il y avait longtemps qu'on lui avait fait un aussi gentil compliment. »
Isabelle Rivère, Élisabeth II dans l'intimité du règne, c'est édité chez Fayard, et puis chez Perrin, la saga des Windsor de l'Empire britannique au Commonwealth par Jean Descartes. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé d'Élisabeth II depuis quelques jours. J'espère que nous avons donné à nos auditeurs d'autres aperçus que ceux qu'on a d'habitude. Merci.